Top, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous média.
Bonsoir, merci d'être avec nous.
Les images, les correspondants en direct.
C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique. C'est l'histoire d'un journal qui se regarde dans le miroir. L'histoire d'un journal 68 heures qui haïssait toutes les censures et les interdits. L'histoire d'un journal qui soutenait ouvertement des pédocriminels jusque dans les années 1980. Libération s'en est déjà expliqué il y a 20 ans. Il le refait aujourd'hui à la faveur de l'affaire Matzneff. Vanessa Springora publie cette semaine un livre pour raconter son calvaire, la relation d'emprise que lui a fait subir Gabriel Matzneff, écrivain reconnu, alors qu'elle avait 14 ans et lui 50. Le patron de Libération a signé hier un édito sans équivoque sur l'époque où Libération faisait l'apologie de la pédophilie. Il vient à présent s'en expliquer sur France Inter. Ce sera l'occasion de se pencher aussi sur les mots pour dire l'insoutenable dans les médias. Mal nommer les choses, affirmait Camus, c'est ajouter au malheur du monde. Et si mal nommer la pédocriminalité, c'était en partie minimiser la gravité des faits.
L'instant M. Dorothée Barba sur France Inter.
Bonjour Laurent Geoffrin.
Bonjour.
Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité.
Directeur de la publication de Libération. Je vous donne la parole dans un instant. On va d'abord écouter la chronique de Xavier Delaporte, rendez-vous du mardi dans l'instant M. Xavier, spécialiste de nos vies numériques, on ouvre avec vous la dernière fenêtre de la porte de 2019.
Alors quand on est un peu névrosé journalistiquement comme moi, le dernier jour de l'année peut être l'occasion de voir ce qu'on a manqué pendant les mois écoulés, et de profiter de la dernière occasion qui nous est donnée pour nous rattraper. Alors c'est ce que je vais faire ce matin, après avoir lu un article de la vénérable revue américaine Foreign Affairs, donc une revue d'actualité internationale, que vous connaissez, qui m'a mis face à mon ignorance. J'ai appris qu'il y a 2 mois, Facebook avait annoncé avoir détecté une nouvelle manœuvre de désinformation russe. Il serait associé notamment Yevgeny Prigozhine, connu pour son rôle dans la campagne russe pendant la dernière présidentielle américaine. Mais si cette manœuvre est passée sous les radars des médias, en tout cas sous mes radars, c'est parce qu'elle ne visait plus l'Europe ou les États-Unis, mais l'Afrique. Or, l'Afrique, on le sait bien, tout le monde s'en fout. Or, cette campagne de désinformation à grande échelle, qui a visé le Cameroun, la Libye, Madagascar, le Mozambique, l'Afrique du Sud et le Soudan, eh bien, elle est nouvelle et elle est très instructive. D'abord, parce qu'elle a usé de techniques nouvelles. Des serveurs relais ont été utilisés pour cacher la provenance des informations, le volume des contenus diffusés était complètement inédit, et de nombreuses langues ont été utilisées, l'arabe notamment, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et puis, le type de message aussi a changé. Certains faisaient directement la promotion de la Russie dans la zone, d'autres critiquaient les présences françaises et américaines, et d'autres encore soutenaient certains candidats contre d'autres dans des élections locales. Alors, au vu de tout ça, les spécialistes pensent que les Russes se sont servis de l'Afrique comme une zone test pour expérimenter de nouvelles techniques qu'ils exporteront ensuite. Alors, les mobiles russes, ils sont assez évidents. Depuis des années maintenant, Russie et Chine usent de toutes les armes possibles pour contrecarrer les présences françaises et américaines en Afrique. Vous savez que le premier sommet Afrique-Russie a eu lieu en octobre dernier. Après tout, la désinformation, c'est une arme comme les autres, me direz-vous, sauf que s'ils sont habitués aux interférences russes, les Africains ont manifestement été sidérés d'être considérés comme des cobayes et ils y ont vu la manifestation, je cite, d'un colonialisme de la désinformation qui nécessiterait une réponse forte. Mais là, il y a plusieurs problèmes. Déjà, pour lutter contre la désinformation, il faut un arsenal technique et juridique dont les pays africains se dotent, mais simplement au compte-gouttes. Le Kenya, le Burkina Faso ou l'Éthiopie se sont dotés récemment, tout récemment, de dispositifs contre la désinformation. Mais en plus, étant donné les tentations antidémocratiques d'un certain nombre d'États africains, il y a toujours la crainte que ces mesures de lutte contre la désinformation donnent, en fait, des instruments au pouvoir pour bâillonner son opinion. Et puis, au fond, tout le monde n'a pas intérêt à lutter contre la désinformation russe. Elle peut être utilisée nationalement ou internationalement selon les circonstances. Alors les experts ont conclu qu'on ne devrait pas voir de grands mouvements contre la désinformation russe à l'échelle du continent africain, ce qui réduit les possibilités d'une défense efficace. Alors voilà, si ce que disent les experts de Foreign Affairs est vrai et que les Russes, en plus d'y accroître leur influence, utilisent l'Afrique comme un champ d'expérimentation pour améliorer des techniques de désinformation, eh bien j'ai du mal à ne pas voir dans ce nouveau colonialisme la prolongation d'un vieil impérialisme à l'ancienne qui a toujours su utiliser ses colonies comme un champ d'expérimentation pour des pratiques pas des plus reluisantes, je pense par exemple au maintien de l'ordre, et je me dis que c'est fou, comme le numérique, malgré la somme de nouveaux problèmes qu'il pose, n'empêche pas les plus tristes bégaiements de l'histoire, et en plus, on n'y prête même pas attention.
Merci Xavier Delaporte, on vous sait gré de partager avec nous vos névroses journalistiques.
Comptez sur moi.
L'instant M, C'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans les lycéennes et les minettes? Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus.
Mon cher, c'est la réciprocité aussi qui est vraie. Je n'ai jamais eu aucun succès auprès des femmes de 25, 30 et plus, des femmes installées dans la vie. J'aime bien aussi, je trouve que quand on a dans sa vie quelqu'un qui n'est pas encore durci par la vie, oui. Une femme qui a déjà eu beaucoup d'hommes dans sa vie, beaucoup de désillusions, parce que comme les hommes sont en général soit des égoïstes, soit des lâches, les femmes ne peuvent que se durcir, n'est-ce pas? Et donc, une fille de très jeune est plutôt plus gentille, même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée.
L'écrivain Gabriel Matzneff, invité de Bernard Pivot sur le plateau d'Apostrophe en 1990. Laurent Geoffrin, le patron de Libération, est mon invité. À la une de votre quotidien ce matin, le meilleur de Check News en 2019. Check News, c'est un service de vérification de l'information, hein, de fact-checking,
comme on dit,
qui répond à des questions de lecteurs. Celle-ci, justement, vous a été posée en 2017. Libération a-t-il soutenu la pédophilie dans les années 1970? Et vous avez répondu, sans faux semblant, oui. Vous l'avez fait à nouveau dans votre éditorial hier, Laurent Geoffrin. Comment expliquez-vous que Libération ait longtemps accueilli dans ses colonnes des hommes qui voulaient dépénaliser ce qu'ils appelaient, eux, des relations sexuelles avec des enfants et qui sont en réalité, au regard du droit, des atteintes sexuelles sur mineurs?
Ben, c'est une faute et c'est une chose que j'ai condamnée absolument sans embâge. Et on l'avait fait déjà depuis 20 ans, hein, donc c'est pas neuf.
Dans un papier de Sor Chalandon paru en 2001.
Oui, exactement, qui était tout à fait explicite, à la fois très très précis sur ce qui s'était passé et très clair sur la condamnation. Mais bon, comme cette affaire revenait à la surface, je me suis dit qu'il fallait que j'aille au devant des critiques qu'on ne manquerait pas de nous faire.
Mais alors, qu'est-ce qui, dans l'histoire de Libération, dans la culture de ce journal, permet de comprendre?
Oui, alors comprendre n'est pas excusé. Faut pas me mettre sur une pente dangereuse. Déjà à l'époque, moi, je trouvais ça absurde, mais c'est autre chose.
On précise que vous êtes arrivé dans la rédaction de Libération dans les années 80, mais que vous êtes en responsabilité depuis 1996, hein, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et donc, Libération, c'est un enfant de 68. Il faut se souvenir de ce qu'était la société d'avant 68. Les gens nous oublient ces choses. On venait tout juste d'autoriser les femmes à ouvrir un compte chèque sans leur mari. L'avortement était interdit. Les femmes qui avortaient étaient passibles des tribunaux. Les homosexuels étaient pourchassés, moqués. Personne n'osait dire qu'il était homosexuel. Et c'est seulement dans les années 70 que certains ont fini par l'avouer publiquement. Et toute la société était ainsi corsetée. Elle était très contrainte. Et ce qui explique en partie l'explosion de 68. Dans 68, il y avait deux choses. Il y avait une espèce d'espérance révolutionnaire un peu folle, mais il y avait aussi la volonté d'assouplir, de réformer, de changer la vie quotidienne. Et Libération est née donc de ce double, cette double filiation et a adopté une culture libertaire, qui était celle des années post-68. Et cette culture libertaire, sur certains points, s'est radicalisée. Et c'est le problème de la radicalisation. On fait souvent l'éloge de la radicalisation. Mais ça mène aux plus grandes bêtises. La preuve, c'est que autant il était juste de prôner la liberté sexuelle, la libération sexuelle, le journal le faisait, entre adultes consentants, évidemment, et cette sexualité était extrêmement contrainte à l'époque. Et c'était un pénible dans la vie quotidienne. C'était pas drôle, c'est pas le goulag, mais enfin, c'était pas drôle. C'était la vie des adolescents n'était pas drôle du tout. Et celle des homosexuels, a fortiori. Et donc, c'était le mot d'ordre, libérons la sexualité. Mais on est allé, évidemment, beaucoup trop loin quand on a dit, mais il faut libérer toutes les sexualités, comme si elles se valaient toutes. Et donc, l'idée, c'était qu'il y avait une sexualité des enfants, et donc que celle-ci était réprimée, et qu'il fallait lutter contre cette répression. Alors ce discours a été tenu par des gens qui y avaient souvent intérêt, parce qu'ils étaient eux-mêmes attirés par les enfants. Donc déjà, ça commençait à être un peu bizarre. Et puis, évidemment, ça négligeait le fait que la relation adulte-enfant n'est pas une relation égale. C'est la relation du fort au faible. Or, dans ce cas-là, ce n'est pas la liberté qui, comme on sait, qui libère, c'est la loi.
Le Sort Chalandon, je le disais, en 2001, oui, dénonçait des propos illisibles et glaçants publiés dans les colonnes de Libération. Les temps ont changé.
On passait pas notre vie, quand même, faut pas exagérer, à publier des textes pédophiles. Vous avez dit, on a l'impression qu'on était spécialisés là-dedans.
Ils ont été imprimés.
On a dû en publier 5 ou 6, quoi. Voilà.
Les temps ont changé, l'époque a changé, entend-on beaucoup Laurent Geoffrin. Est-ce une affaire d'époque ou de milieu, finalement? Dans ce milieu, dans celui des intellectuels et des journalistes parisiens dont Libération était le royaume à l'époque, Matzneff ne choquait pas.
Mais,
ce milieu n'était pas la France de l'époque. Beaucoup de gens se souviennent de l'émission Apostrophe et étaient choqués devant leur télé.
Bien sûr. Enfin, le monde intellectuel ne se résumait pas à Libération. Je vous rappelle que
Libération en faisait partie.
Oui, d'accord, mais Jean d'Ormesson a défendu Matzneff. On en profite pour attaquer le journal. Je comprends ça très bien, puisqu'on a fait des fautes. Normal qu'on nous attaque. Mais on veut attaquer la gauche.
Vous le prenez comme une attaque politique ?
Ah oui, en partie, bien sûr. C'est le procès de 68. C'est une ritournelle, quoi. On entend ça, c'est Sarkozy qui avait lancé Seguin, Sarkozy avait lancé ça.
N'était-ce pas le rôle de Libération, déjà à l'époque, oui, journal humaniste, que de défendre les enfants victimes de violences sexuelles?
Faute. Bien sûr, oui. Bien sûr, mais c'était aussi le rôle de Jean d'Ormesson de s'apercevoir que Matzneff était un délinquant. Hein? Matzneff a une chronique.
C'est pas un peu facile de renvoyer ça aux autres journalistes de l'époque.
Je constate que Libération s'explique, mais que les autres le font beaucoup moins. J'ai pas fini.
Oui, pardon.
Matzneff, il a pas fait de chronique dans Libération. Il a fait une chronique dans quel journal? Vous savez?
Le Point.
Ouais, Le Point, ouais.
Il est toujours chroniqueur du Point.
Le Point n'est pas un journal 68 ans, vous voyez. Donc c'est plus large que cette question-là.
Alors je précise la direction du Point.
Moi je m'explique pour.
Tant que Gabriel Matzneff n'est pas condamné par la justice, entend le garder dans ses colonnes jusqu'à preuve du contraire.
Ils font ce que c'est leur affaire, oui.
Vanessa Springora, aujourd'hui éditrice, publie, je le disais, cette semaine un livre dans lequel elle raconte ce que lui a fait subir Gabriel Matzneff. Vous avez publié hier un portrait d'elle dans Libération. Et le journaliste qui signe le portrait s'appelle Luc Levaillant. C'est le même Luc Levaillant qui signait il y a 15 ans, en 2004, un portrait très amène de Gabriel Matzneff dans Libération. Pourquoi lui, Laurent Geoffrin? Est-ce une façon d'offrir à ce journaliste une occasion de se racheter?
Oui, enfin, c'était pas un crime non plus. C'était une erreur journalistique de faire un portrait trop favorable à l'époque, d'accord? Mais non, j'y connaissais bien cette affaire, et pour cause. Et donc, voilà.
Voici ce qu'écrivait Luc Levaillant.
Il a décidé de faire ce portrait de la victime après avoir.
Enfin, il a décidé, il y a été autorisé par la direction de sa rédaction.
Mais c'est un très bon journaliste, Luc Levaillant.
Voici ce qu'il écrivait en 2004. Parents, planquez vos filles. Voici Gabi qui les désire jeunes et fraîches et n'aime rien tant que les mettre dans son lit. Un peu plus loin, dans le même papier, le beau Gab, si transgressif et si désinvolte.
Oui, mais c'est une erreur, bien sûr. Je suis d'accord.
Et ce n'est pas une erreur aujourd'hui que de confier à Luc Levaillant le portrait de la victime de ce même Gabriel Matzneff.
Je pense qu'il a changé d'avis entre-temps.
Vous pensez ou vous en êtes sûr?
Je ne suis pas chargé de sonder les reins et les cœurs de toute ma rédaction. Il y a des gens qui pensent des choses tout à fait différentes de miennes. Mais je pense, oui, qu'il a changé d'avis. De toute façon, la question est réglée par la loi. C'est là où il y a une erreur, et c'est là où l'ignorance joue un rôle. C'est que, quand on regarde ces émissions de l'époque...
Enfin, à l'époque, c'était déjà criminel, la pédocriminalité.
C'est ce que j'allais dire. Non, c'est pas criminel, c'est un délit. Nuance. C'est une délinquance, si vous voulez. Donc, quand Matzneff est invité à la télévision, c'est un délinquant. Et on ne le dit pas. Alors, nous non plus, Libération a commis l'erreur, notamment dans ce portrait, de ne pas le dire. D'accord, mais quand Matzneff était invité à Radio France, par exemple, on ne le disait pas non plus. Donc, moi, je m'explique, on me met en cause, on me ressort des écrits qui datent de 40 ans, très bien, on a raison, c'était une faute, mais je constate que les autres médias, pour l'instant, j'attends un peu qu'on s'explique plus avant, vous voyez.
Le mea culpa.
Je veux bien passer en procès, mais à condition de ne pas être tout seul.
Le mea culpa de Libération, en effet, s'étalait sur 4 pages hier. Je le disais.
Mais
il remonte à plus loin.
Le mea culpa. Il s'étalait pas sur 4 pages. Sur les 4 pages, il y avait de l'information.
L'information.
C'est un journal. Donc, dans l'éditorial, il y a effectivement une sorte de mea culpa qui est sans emballe.
Encore un mot sur ce papier d'hier signé Luc Levaillant. Est-ce qu'il vous a fait réagir? On y lit que la victime de Matzneff était à l'époque une jeune fille aux sentiments confus. Laurent Geoffrin.
Mais j'en sais rien, je la connais pas.
Bon, et rien ne vous a choqué dans ce papier d'hier?
Cette manière moi, j'ai de pas mettre... lu son livre, donc je ne sais pas si ses sentiments étaient clairs comme de l'eau de roche ou plus compliqués.
Cette manière de mettre en parallèle les goûts littéraires de la victime et de l'agresseur, les opinions politiques de la victime et de l'agresseur, comme s'il s'agissait d'un couple lambda, alors qu'on parle d'un homme de 50 ans et d'une fillette de 14 ans.
Mais c'était un couple. Oui, mais c'était illégal. Enfin, je répète encore une fois, la loi est très simple là-dessus. Il y a une majorité sexuelle à 15 ans. En dessous, c'est un délit.
Voilà, la loi est très simple. Le vocabulaire aussi. J'aimerais qu'on en vienne aux mots pour dire les violences sexuelles sur mineurs, Laurent Geoffrin. Est-ce que vous regrettez les termes employés à la une de votre journal hier matin? Je cite, connu pour ses écrits racontant ses ébats avec des enfants et des ados, l'écrivain n'a jamais été inquiété. Des ébats. Employer ce terme, n'est-ce pas une façon de s'approprier le langage du bourreau?
Non, pas du tout. Non. Je ne crois pas. Non, on a fait ça collectivement.
Les ébats, c'est le champ lexical du jeu érotique plutôt que celui des violences sexuelles sur mineurs.
Oui, c'est un jeu érotique condamnable, oui, illégal et honteux, d'accord. Mais un ébat, ça veut dire relation sexuelle. C'est pas. On n'est pas obligé de. Comment dire? Quand on décrit une réalité, on n'est pas obligé de mettre constamment une espèce d'indignation automatique dans tous les mots. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ça devient une littérature de. Édifiante, quoi. On est un journal, on n'est pas.
Vous êtes interrogé au moment d'employer ce mot à la une.
En plus, je comprends pas le procès qui est fait. Si on lit ce qu'on a écrit hier et ce qu'on écrivait il y a 20 ans, c'est absolument sans aucune ambiguïté. Et donc, c'est nous qu'on vient chercher là-dessus en disant, mais ce que vous avez fait il y a 40 ans, la plupart des gens qui l'ont fait sont morts d'ailleurs, c'est très grave. Je dis oui, d'accord, c'est grave. Mais on s'explique volontairement sans que personne nous le demande à la une. Et alors maintenant, on va nous chercher des poux en disant, oui, vous n'avez pas employé exactement le bon mot, ça se discute, etc. Oui, ça se discute. Moi, je veux bien ouvrir une discussion sémantique sur la manière de qualifier toutes ces choses-là. Mais c'est un procès. C'est facile.
Ce n'est pas à vous, Laurent Geoffrin, que fait je vais apprendre que les mots ont une responsabilité dans la qualification des faits le regard qu'une époque porte sur ces faits.
Oui, mais enfin, quand je mets dans mon édito que je condamne absolument ces agissements, je pense qu'on devrait en tenir compte quand même, dans le jugement qu'on porte sur le journal.
Alors, des voix s'élèvent de plus en plus nombreuses aussi pour que ne soit plus employé le mot pédophilie dans la presse, mais qu'on lui préfère le mot pédocriminalité, parce que la pédophilie, c'est le fait d'aimer les enfants. La racine grecque, philie, est sans équivoque.
Je viens de regarder la définition, c'est d'aimer sexuellement.
Violer un enfant, ça n'est pas...
D'être attiré sexuellement.
L'aimer. Voilà. Est-ce que vous entendez ce débat qui émerge entre pédophilie et pédocriminalité? Il y a le passage à l'acte, dans l'idée de pédocriminalité.
Attendez, je vous réponds. La confusion s'installe. C'est pas le viol dont il est question. Le viol est condamné de toute façon, par ailleurs. C'est la question de l'atteinte sexuelle. L'atteinte sexuelle, ce sont des relations sexuelles. C'est pas un viol.
Le droit considère qu'une relation sexuelle, ce que vous qualifiez de relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans, est une atteinte sexuelle.
Oui, mais c'est pas un viol. Le viol est un crime, l'atteinte sexuelle est un délit.
Mais on ne parle pas de consentement d'un enfant de moins de 15 ans.
Non, je ne parle pas du consentement. Je vous explique, je vous répète que le simple fait qu'il y ait relation sexuelle constitue un délit.
Donc vous ne considérez pas
le consentement
que...
et la question du consentement ou du non-consentement est considérée comme sans intérêt pour la justice. Dès que les faits existent, il y a condamnation.
C'est le titre d'ailleurs du livre de Vanessa Springora, hein, Le consentement.
Voilà.
Pédophilie.
C'était l'excuse employée par le. Il faut revenir à une émission de France Culture, c'est intéressant. Une émission de France Culture qui reçoit Michel Foucault, Guy Hockenghem et un avocat qui s'appelle Danet, je me souviens plus de son prénom, et qui est animé par un journaliste. Bon, c'est en 78, donc c'est très ancien. Mais il y a toute l'argumentation visant à abolir la notion de majorité sexuelle. Un des arguments qui est employé par Foucault et par les autres, c'est que c'est le consentement, justement. Il y a un négationnisme ou il y a un déni dans leurs propos, consistant à dire cette histoire de dommage psychologique ou d'atteinte à l'équilibre mental de la personne concernée, l'enfant en question, c'est du flan, ça n'existe pas, tout ça est bon. Comprendre. Condamné en même temps, mais comprendre cette époque-là, il faut comprendre que France Culture a diffusé ça pendant une heure, qu'il n'y a pas la moindre contradiction, et que la radio n'a pas du tout, c'est pas du tout gendarmé de recevoir ces gens-là qui faisaient en fait l'éloge de la pédophilie.
L'usage des mots évolue avec l'époque, Laurent
Bien
Geoffrin.
Sûr, toujours,
le meilleur exemple, c'est ce mot féminicide qui s'est imposé très vite dans les médias et qui désormais n'a plus besoin d'être expliqué lorsqu'il est employé.
On l'emploie.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait réfléchir à ce mot pédophilie? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. qui minimise sans doute la gravité des faits.
Mais moi, je veux bien pas changer le mot, ça me dérange pas. Il suffit de se mettre d'accord. Le Libération a été un des premiers journaux à employer le mot de féminicide. Et on a tenu le compte quotidien pendant 3 ans ou 4 ans des féminicides qui se commettaient en France. Donc vous n'allez pas m'expliquer ce qu'il faut faire là-dessus. Je veux bien mettre pédocriminalité. Je remarquerai simplement que la pédophilie, enfin les relations sexuelles avec des mineurs de 15 ans sont considérées comme un délit et non pas comme un crime.
Et dans le langage courant,
On peut demander à ce que ça soit réévalué, comme on l'a fait pour le viol. Non, ça devient un crime. Pas le cas pour l'instant.
On peut ajouter que dans le langage courant, c'est un synonyme de monstre pédophile. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus.
Oui, mais les journaux ne sont pas obligés d'épouser toutes les méandres du langage courant.
Merci beaucoup, Laurent Geoffrin, d'être venu en direct ce matin sur France Inter. Dans un instant, grand bien vous fasse avec Ali Rebéi.